Pêle-mêle bêche, l'émission des jardins. Vous êtes bien sur Radio Diwa, rdwa.fr, et vous écoutez l'émission des jardins en présence de
Jérôme,
Gabriel
et Olivier.
Bienvenue à tous.
Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons écouter nos trois chroniqueurs, puisque Silver, et on pourra lui faire un petit coucou, est à nouveau papa.
Oui.
Voilà, et félicitations à toute la famille et bon courage pour la suite.
Ouais, et bienvenue à Jolane, une petite fille, une petite merveille de la nature qui vient achalander en nombre les habitants du Diwa.
Voilà, une nouvelle étoile est née dans le ciel du Diwa.
Bienvenue à Jolane.
Donc, dans nos rubriques respectives, nous allons entendre Jérôme et moi-même par rapport à l'ortie et puis la suite des PNPP et puis le rendez-vous au jardin avec Gabriel.
D'accord, c'est moi qui vais commencer alors par vous parler un peu des travaux du jardin en ce mois de septembre. Donc j'ai un petit dicton populaire pour vous qui est joli je trouve. Donc septembre se nomme le mai de l'automne. Donc septembre c'est vrai que c'est un beau mois où on peut faire encore beaucoup de choses au jardin. Oui. Et donc, pour commencer, on peut s'occuper de nettoyer un petit peu ce qu'il y a au jardin. Par exemple, les fleurs. On peut couper toutes les fleurs qui ont fané, s'occuper un peu de les nettoyer. Et puis, elles vont éventuellement repartir encore un petit coup à l'automne. On peut aussi en profiter pour récolter ces graines diverses et variées de légumes, si on en a laissé grainer, ou de fleurs aussi pour l'année d'après. On peut aussi d'ailleurs préparer ces graines de pas mal de légumes pour les conserver, donc de tomates, ça c'est très facile, et voilà, ou d'autres légumes, poivrons ou autres, ça c'est quand même les plus faciles, il est vrai. Et puis on peut trouver plein de variétés qu'on peut s'amuser à reproduire. Alors moi cette année j'ai découvert une variété de tomates incroyable là, qui est au jardin familial de Di, et qui est une petite tomate ronde, vraiment un peu cerise, noire. Mais alors d'un noir brillant, très très joli.
D'accord.
Voilà, donc j'essaierai d'en récupérer l'année prochaine.
Ben oui.
Et n'hésitons pas à faire des trocs aussi.
Pour l'année prochaine, tu veux dire.
Pour l'année prochaine, oui, je vais en récupérer.
Cette année pour l'année prochaine.
Des jardiniers de cette année pour l'année prochaine, moi aussi. Et donc on aura aussi des trocs réguliers organisés à Di pour pouvoir s'échanger un peu toutes ces variétés. Sinon au potager, on peut semer en pleine terre pas mal de légumes d'hiver. Parmi lesquels l'épinard d'hiver, les laitues d'hiver, les radis d'hiver. Donc il y a des radis violets, noirs, roses qui se sèment à ce moment-là, en septembre. On peut semer la mâche aussi, qui aime bien, elle, un sol bien tassé. On peut semer pour le printemps les oignons blancs ou rouges et les choux paumés de printemps. On peut semer aussi l'angélique. Là, moi, j'en ai une au jardin qui est magnifique. Ça fait une plante absolument énorme et qui, comme toutes les ombellifères, attire beaucoup tous les insectes pollinisateurs. Ouais. Et on peut utiliser à la fois les tiges et les feuilles. Notamment, on peut faire du vin d'angélique, qui est délicieux.
Ah oui, exact.
À partir des tiges et des feuilles. Et donc, c'est une plante très aromatique qui a beaucoup de vertus aussi digestives, apéritives tonifiantes, enfin plein de...
De propriétés.
Plein de propriétés, voilà, puisqu'elle faisait partie des plantes qu'on mettait dans les eaux, dans les eaux, qu'on appelait ça les eaux de mélisse, l'eau des carmes, des recettes traditionnelles dans lesquelles on a beaucoup de plantes aux vertus apéritives, notamment un peu comme le fenouil et toute cette famille. Et voilà, c'est aussi l'angélique qu'on utilisait pour faire des fruits confits. Qu'on utilise, mais bon là ça c'est tout un processus, j'ai pas encore attaqué la chose, mais c'est à partir des tiges qu'on va faire cuire dans du sucre de manière répétitive, et au bout du compte on a les petits cubes qu'on trouve maintenant qui sont colorés dans les supermarchés ou quoi, dans des petites boîtes avec des petits cubes de couleur jaune, rouge, en fait ce sont des morceaux d'angélique.
D'accord.
Voilà, donc c'était utilisé pour les fruits confits. Alors, c'est aussi l'occasion de s'occuper de ces fraisiers, donc de les nettoyer et de bien tout nettoyer, de les pailler pour l'hiver, de les protéger. On peut aussi s'attaquer aux boutures de pas mal de plantes, d'arbustes, les petits fruits, les rosiers, les buddleias ou arbres aux papillons, les sureaux, les saules, etc. Voilà, c'est un bon moment pour faire toutes ces boutures, ou les autres aromatiques aussi.
Et pour les rosiers, tu parlais des fleurs tout à l'heure, c'est encore la saison où les rosiers fleurissent, donc ne pas oublier d'enlever les boutons qui ont défleuri pour favoriser la production de nouvelles pousses et donc de nouvelles fleurs. En fait, les rosiers, c'est une chose, moi je le faisais pas trop jusque-là, cette année je m'y suis attaché sur un petit rosier que j'ai, à bien couper les boutons après floraison, et j'ai des fleurs en permanence.
Du coup, voilà.
Il est magnifique, ouais. Et il fait des belles pousses qui vont offrir, une fois que ça aura lignifié pour l'année prochaine, un choix de taille plus grand, plus conséquent, pour arriver à former un rosier plus joli, quoi.
D'accord.
Voilà.
C'est vrai que la plante puise énormément d'énergie pour fabriquer ses graines.
Oui.
Et si on limite cette étape, donc si on enlève les fleurs fanées, ça permet à la plante de concentrer son énergie sur de nouveaux boutons, parce que finalement son objectif n'est pas atteint, elle doit assurer la descendance, et donc elle va produire davantage de fleurs, et ça peut aussi étaler la floraison beaucoup plus longtemps. Ça, c'est un gros avantage sur les rosiers.
Ouais. Et oui, c'est ce qu'on évoquait pour toutes les fleurs du jardin qui peuvent être des annuelles, comme les soucis notamment, qui en plus ont tendance à beaucoup se ressemer partout et donc un peu à envahir le jardin. Donc ça peut être un moment de couper toutes ces fleurs, voire même les graines, et s'ils vont pouvoir fleurir. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est plantes vivaces, là, c'est encore plus intéressant, parce que ça les aidera à être plus belles l'année d'après aussi.
Et puis ça aide à ce que le jardin reste beau plus longtemps aussi, quoi, avec un panel de couleurs et d'espèces diversifiées.
Et oui.
Tout à fait. Alors sinon, quand on a nettoyé certaines parcelles du jardin, qu'on a fait les récoltes, on peut ne pas oublier de s'occuper du sol, c'est-à-dire que tous les déchets végétaux, les tiges, etc., ce sont des choses, et les feuilles fanées, etc., ce sont des choses qu'on va pouvoir remettre sur le sol en paillage, et qui va venir nourrir le sol ou protéger aussi la vie du sol. Et par ailleurs, une fois qu'on aura des espaces qui se seront libérés, si on n'a pas mis de légumes d'hiver, on va pouvoir semer des engrais verts. Alors les engrais verts, c'est une pratique et des plantes dont on a déjà parlé dans d'autres émissions. On parle d'engrais. Alors engrais, pourquoi ? Parce que ce sont des plantes qui améliorent le sol et vont permettre de mieux nourrir la plante. Parce qu'il y a parmi ces engrais verts des légumineuses qui apportent de l'azote au sol, et par leurs petits nodules qui sont dans leurs racines, qui sont des associations avec des champignons.
Bactéries,
ouais.
Ce sont des bactéries azoto, ce sont les azotobactères, voilà,
ah oui,
qui fixent l'azote de l'atmosphère.
Voilà, ça va être le moyen mnémotechnique.
Voilà, et qui restitue une fois que la plante est détruite. C'est important parce que quand on dit engrais vert, on n'applique pas un engrais réellement, c'est la plante qui va être... qui va se décomposer et qui va nourrir après le sol.
Voilà, donc ça peut être des plantes qu'on va semer à l'automne, et c'est pas mal de les laisser tout l'hiver et de les détruire qu'au printemps, pour que notamment elles aient le temps de se développer un petit peu, en sachant qu'il ne faut pas qu'elles atteignent il faut les détruire juste avant la floraison ou juste au début de floraison, mais pas attendre qu'elles fassent des fruits pour qu'elles aient encore de l'azote à apporter au sol. Et ce sont aussi des plantes dont les racines, notamment pour les céréales, qu'on peut mettre dans cette association d'engrais verts. Les racines des céréales donc vont vraiment décompacter le sol, notamment le seigle par exemple, qui a des racines très très puissantes et qui vont bien décompacter le sol. Par exemple, on recommande de mettre du seigle avant des cultures de carottes. Bon, après, on peut aussi mettre des patates, des topinambours, des choses qui vont décompacter le sol. Mais l'intérêt des engrais verts, c'est que grâce à ces associations donc de plusieurs variétés de plantes, on va pouvoir améliorer le sol, autant en qualité nutritive qu'en structure du sol. Voilà, donc ça, c'est une chose à prendre en compte.
Et c'est important, donc en fait, c'est cette association-là qui associe ces différentes plantes, parce qu'elles ont des réseaux racinaires différents. Les graminées ont des racines puissantes mais très superficielles. Elles offrent une couverture du sol qui favorise la protection, qui limite donc l'érosion. Et les plantes à pivot, plus les légumineuses qui, elles, vont descendre plus profondément, qui, une fois détruites, vont offrir autant de galeries et de drains naturels et donc d'échanges entre l'air et le sol, et éventuellement ça va favoriser donc l'installation aussi des vers de terre, des choses comme ça, et notamment le drain sur les pluies, drainer le sol par rapport aux pluies printanières.
Oui, donc, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Drainer et absorber aussi en partie toutes ces pluies,
voilà.
Et que le terrain soit pas lessivé, quoi, qu'on perde pas tous les éléments, voilà, nutritifs qui sont, voilà, dans la terre à ces moments de l'automne et de l'hiver. Mm-hmm. Donc ça, c'est un autre des intérêts, c'est vraiment d'avoir un sol qui va être prêt à accueillir les légumes au printemps. Mm-hmm. Et parce que laisser le sol à nu pendant tout l'hiver, ou même mettre du compost à l'automne, c'est un petit peu dommage parce que tout va être quand même lessivé pendant l'automne et l'hiver.
Ben, s'il vient des pluies automnales assez tardives, si le froid tarde à venir, ouais, effectivement, par lessivage, on va perdre énormément de l'intérêt de ce compost, quoi.
Le couvert végétal est très très important, oui, justement pour limiter l'érosion. Mm.
Parce que ce couvert végétal, il puise aussi les éléments nutritifs dans le sous-sol, les transforme et les restitue en surface lorsque l'on incorpore l'engrais vert.
Voilà, ouais, ouais,
ouais. C'est tout un mécanisme et un ensemble très très intéressant qui demande un peu plus de travail. Un travail supplémentaire que le jardinier classique, mais qui présente...
Mais qui apporte beaucoup de bénéfices.
Mais qui apporte beaucoup de bénéfices.
Donc on a des partisans, des fans. Donc parmi les engrais verts, on peut mettre pas mal de plantes variées. On peut mettre, donc on a parlé des légumineuses. Il y a la vesse, la luzerne, le lupin, les févroles. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Le trèfle
aussi.
Trèfle violet ou trèfle incarnat.
Voilà, ouais, ouais, qui a tendance à être un petit peu plus bas. Mmh. Et puis parmi les céréales, on peut mettre donc des blés d'hiver, blé rouge de Bordeaux, seigle, avoine.
Oui.
Ça, c'est sympathique aussi. L'intérêt aussi de mettre pas mal de plantes, c'est qu'on peut après laisser un petit carré et récolter soi-même les graines pour se refaire des semis l'année d'après.
Exactement, mmh, ouais. Il y a l'orge aussi, on peut mettre aussi de l'orge.
L'orge. Mmh. Et on peut aussi associer d'autres plantes comme la moutarde, la facélie, le sarrasin, qui sont des plantes d'autres familles que les céréales et les légumineuses. Mmh. Et donc, en fait, c'est intéressant de mettre des variétés très diverses pour avoir des apports en termes de racines et en termes de nutritifs du sol différents avec toutes ces plantes. Donc après, au printemps, on détruira... ces plantes, et c'est là qu'on pourra faire des apports de compost en fonction des besoins des légumes qui viendront après. Voilà pour les engrais verts. Et sinon, donc, une des choses importantes à penser en ce mois de septembre, ça va être les rotations au jardin. Donc le principe de la rotation, c'est un principe qui était appliqué depuis très longtemps, puisqu'avant on avait les assolements triennaux par exemple, donc ça se faisait sur 3 ans. Mais de nos jours, on le fait pas mal sur 4 ans. Le principe, c'est de faire tourner les cultures sur une même parcelle pour ne pas épuiser le sol dans certains éléments nutritifs qu'une plante va pomper sur le sol. Et une même plante ou une même famille de plantes attire aussi des ravageurs qui, si on laisse toujours la plante sur la même parcelle, vont être bien contents, vont nidifier, vont rester et vont continuer leur ravage les années suivantes. Donc on essaye souvent de faire des rotations sur plusieurs années, par exemple 4 ans. Et donc ça, c'est une chose à laquelle on peut réfléchir. Et notamment, il faut réfléchir aussi aux associations. C'est-à-dire qu'il faut à la fois faire tourner un petit peu les choses au jardin et penser à associer différentes plantes entre elles, parce que ça peut avoir un intérêt à plusieurs niveaux. Et donc, on pourra reparler de ces rotations et associations pour le mois d'octobre.
Ben, très bien. ce sera un très bon sujet pour nos auditeurs et puis pour nous aussi dans le
Pour qu'on l'approfondisse un petit peu, un petit peu les différents types de rotations qui se pratiquent et comment combiner ça avec des associations au jardin.
Ok, une petite pause musicale.
Oui.
Allez.
Je plus mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Y a trop de feux rouges dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. J'aurai des bornes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. J'aurai des bornes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Un soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur.
Voilà, donc on a écouté Ridan, l'agriculteur, et maintenant nous allons passer la parole à Olivier et éventuellement moi-même aussi. Et
vous allez nous parler de des PNPP, entre autres, si j'ai bien compris.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu communément toutes les plantes, les préparations naturelles peu préoccupantes.
C'est bien, tu as donné la définition de ce que voulait dire PNPP, ce que je voulais faire moi.
Ah bah voilà, la chronique est finie alors,
tu l'as
c'est
fait.
Ça
donc on a fini, voilà. Et on n'a pas fini hein, quand même.
Non.
On y va. Alors, donc, qu'est-ce que, à ce sujet-là, quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, écoutez, je vais faire un petit rappel, un petit peu sur la guerre. On appelait ça la guerre de l'ortie pendant un petit moment. Et surtout, revenir sur un contexte ethnobotanique agricole, un usage des plantes pour soigner les plantes. C'est vrai que depuis l'Antiquité, on utilise les plantes, hein. On utilisait déjà autrefois, il y a bien longtemps, donc à l'Antiquité, le sureau, le cumin, les lébores, le chêne, le cèdre et j'en passe, et l'absinthe notamment. Et déjà, pour faire un petit rappel vis-à-vis des associations de plantes, comme le disait succinctement Gabriel, en Hollande, on plantait déjà du chanvre en bordure de culture pour protéger les choux, notamment contre l'invasion de Pierides. Et ça date du XVIIIe siècle. Mmh. Donc c'est pas tout nouveau. On sait qu'il y a des plantes qui sont utilisées comme répulsives, voire insectifuges, hein, qui vont vraiment éloigner les insectes, voire une action insecticide, qui peuvent, dans certains cas, tuer les insectes indésirables. Mais on peut citer d'autres cas. Dans le Limousin et en Auvergne, on utilisait déjà, il y a quelques siècles, la menthe poivrée pour lutter contre des insectes piqueurs-suceurs, comme le puceron. Et bon, après, on peut retrouver dans d'autres pays, dans d'autres contrées, notamment en Indonésie. En Indonésie, on utilisait le giroflier pour lutter contre des champignons microscopiques. Mmh. Donc voilà, l'utilisation des plantes, c'est déjà un savoir traditionnel, un savoir ancestral. Et qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? C'est que l'État français, non pas l'Europe, hein, ça n'a rien à voir, c'est l'État français qui bloque un petit peu les PNPP. C'est une classification qui a été mentionnée initialement par la loi sur l'eau de 2006, hein, qui considérait finalement que des préparations pouvaient être utilisées, hein, qui n'allaient pas dans le registre de la pollution des eaux de surface notamment. Hein. La loi sur l'eau de 2006 vise à protéger les lieux de captage, mais aussi les eaux de surface et les eaux souterraines. Et il y a des plans de lutte qui existent déjà depuis de nombreuses années, je pense en Bretagne, je pense dans le nord de la France, dans le bassin parisien, où de nombreux captages sont pollués par des nitrates, sont pollués par l'atrazine, la cimazine. Pour limiter tout ceci, ça supposait de limiter l'application de pesticides petit à petit, mais ça ne suffisait pas. Et vraiment, les agences de l'eau, le ministère de l'écologie de l'époque avait vraiment insisté sur le fait que les pesticides pouvaient être réduits. Et je rappelle une petite étude de l'INRA il y a quelques années en arrière. On a beau casser du sucre de temps en temps sur l'INRA, mais des fois il y a des choses qui sont intéressantes, qui sortent de temps en temps.
Il y a du bon et du moins bon.
Mais... qui considérait qu'on pouvait réduire de 40% le tonnage des pesticides appliqués dans le milieu agricole. Donc, et sans pour autant nuire au rendement des cultures. Donc voilà, un petit rappel donc vis-à-vis du purin d'ortie qui est devenu l'emblème des PNPP. Et notamment, on peut retrouver d'autres plantes utilisables dans le même cadre, à savoir la prêle, la fougère, sous forme d'extrait fermenté, de décoction, d'infusion, voire de macération. Mais les PNPP, les produits naturels peu préoccupants, ce sont aussi, pas forcément des plantes, mais on peut utiliser l'argile, le vinaigre, le petit lait, l'huile de Nîmes, le sucre. Il y a d'autres choses qui peuvent être utilisables. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que la législation française, depuis plus de 8 ans, hein, Aspro PNPP notamment, qui est une association pour la reconnaissance des alternatives aux pesticides, lutte contre cette nomenclature franco-française qui vise à instaurer que tout produit utilisé sur des plantes doit être soumis à une autorisation de mise sur le marché. Et une autorisation de mise sur le marché, ça veut dire des dizaines de milliers d'euros d'études pour faire valider un dossier. Et on comprend bien que d'utiliser finalement des plantes que l'on trouve autour de chez soi, qui était un usage traditionnel, ça devient un non-sens parce que finalement ça limite, voire même ça ne contribue absolument pas à cette directive de la loi sur l'eau qui vise à privilégier finalement les alternatives aux pesticides. Donc voilà, on est vraiment dans un non-sens, mais ça évolue. Et là, je pense que Jérôme, tu vas pouvoir développer par la suite. Et ce qui est bien en tout cas, c'est qu'il y a un petit sondage qui a été publié en janvier 2014 qui indique que 40% des agriculteurs se déclarent prêts à utiliser des moyens de lutte alternatifs aux produits phytosanitaires. Donc il y a quand même une prise de conscience des applicateurs même, des agriculteurs, sur ce fait des pesticides. Et 9% appliquent déjà des produits alternatifs. Donc voilà, c'était un sondage réalisé par Adéquation. Je ne connais pas ce bureau de sondage. Mais en tout cas, ça montre bien qu'on est dans une actualité où le grand public refuse catégoriquement les pesticides. Les utilisateurs finaux souhaitent avoir des alternatives. Et qu'est-ce qui bloque? C'est finalement la législation française.
Tout à fait. Alors, moi, je vais juste avant éventuellement de développer un petit peu, déjà accueillir Marianne qui nous a rejoint.
Et, bonjour.
Super, voilà. Donc, si tu veux réagir, eh bien, tu n'hésites pas. Nous avons une invitée et c'est très bien. Donc, au niveau, là où c'est moins bien, c'est qu'elle fait sonner son téléphone.
Tu es repéré.
Et voilà, hop là, c'était pas bon.
Marianne était venue nous parler, je me souviens, de son compost à l'arrache dans une autre émission de Pêle-mêle-bêche, parmi les premières émissions d'ailleurs. Oui, je me rappelle. Donc c'est une deuxième visite.
Ah, ben voilà, donc on peut inviter les auditeurs à aller rechercher. Tu te souviens quelle
c'était la première ou deuxième, numéro 1 ou numéro 2. Ou numéro 2, 3, je crois numéro 2, ouais.
Numéro 2, bien. Voilà. Eh ben voilà,
de toute façon, il y a les sommaires sur toutes les
l'occasion.
Émissions.
Voilà, c'est l'occasion
quand on
de parcourir.
Retrouver un sujet, on peut regarder sur le site de Pêle-mêle-bêche et il y a tous les contenus qui sont affichés.
Bien, bien. Donc, n'hésite pas, Marianne, si tu veux intervenir, ben, tu nous le fais savoir et voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, juste pour... alors, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Au niveau l'association, donc ASPRO-PNPP, le titre exact, c'est l'Association pour la promotion des produits naturels peu préoccupants. Et ce qui nous intéresse par rapport à ça, c'est que donc dans le domaine de l'actualité, il y a donc la loi d'avenir agricole qui était discutée dans le courant de l'été. Et au mois de juillet, il a été donc voté certains amendements qui dit que les préparations naturelles ne sont plus considérées comme des pesticides. Et donc il est paru un article fort intéressant, assez court mais riche en renvois vers d'autres articles émanant du site donc bastamag.net, daté du 22 juillet 2014 et qui fait état donc de ce vote à l'Assemblée nationale en deuxième lecture de la loi d'avenir agricole donc, et qui dit les préparations naturelles ne sont plus considérées comme des pesticides. Et donc à l'heure où ce texte de loi voulait promouvoir moins de pesticides, de consommation de pesticides, la députée écologiste de Dordogne, Brigitte Alain, dit qu'il aurait été incompréhensible que les méthodes alternatives simples et naturelles ne trouvent pas leur place dans cette loi. Donc à ce jour, on peut dire que c'est inscrit dans le marbre d'une manière générale, reste maintenant à aller dans le détail, et c'est-à-dire qui... quelle plante aura droit de citer. Donc là, la deuxième bataille s'enclenche, c'est-à-dire qu'une première a été gagnée grâce à des mobilisations comme ASPRO-PNPP, mais d'autres structures qui défendent l'agriculture paysanne notamment. Je pense directement donc à la Confédération paysanne. Il y a d'autres partenaires aussi. Et grâce aussi, en mai, il y avait eu une caravane. Enfin, on avait dit une caravane pour la défense de l'utilisation libre à la fois et de ses semences, des produits naturels, d'aller vers une agroécologie qui était qui étaient partis, donc c'était la caravane pour la défense de l'agriculture paysanne. Dans une était partie de la Drôme, de Bourg-de-Péage, je crois, ou
Bourg-les-Valences.
Bourg-les-Valences, Bourg-de-Péage. Enfin voilà, et une autre de Dordogne, elle s'était rassemblée et retrouvée donc à Paris, à l'Assemblée nationale. Donc voilà, saluons la mobilisation de ces militants pour faire avancer les choses dans le bon sens. La deuxième bataille maintenant, ça va être de faire en sorte que la liste des plantes autorisées, considérées comme de PNPP et pouvant être utilisées, voire même transformées, commercialisées, libres de droit d'utilisation, transformables directement chez soi et pour les jardiniers, pour les agriculteurs, mais aussi surtout pour les agriculteurs, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse, parce que la plupart d'entre nous ici sommes jardiniers, mais c'est pas la chance de tout le monde d'avoir son jardin. Voilà, donc quand même la majeure partie achète des produits, et donc l'idée c'est que justement les agriculteurs puissent faire leur préparation pour aller vers une agriculture beaucoup plus propre.
Alors c'est vrai, je voudrais rebondir un petit peu. On avait parlé lors d'une précédente émission du plan Ecophyto du ministère de l'Agriculture. Et c'est vrai qu'il visait, ce plan visait, qui avait été élaboré en 2012 notamment, enfin qui a été revu en 2012, pardon, et qui visait à d'ici 2018 à réduire de 50% l'utilisation de pesticides. Donc, oui. Et aujourd'hui, le ministère s'aperçoit qu'il a du mal à aller dans cette direction, même en faisant plein de formations auprès des agriculteurs, des conseillers, etc., pour réduire les doses appliquées sur les champs. Mais ces dispositifs ne fonctionnent pas tout à fait. En tout cas, on n'est pas encore en 2018, mais on a encore peut-être un petit peu de temps. Mais ça vient très, très vite, sachant que si on n'a pas non plus la possibilité d'utiliser des alternatives à ces pesticides, qui vont forcément rentrer dans ce cadre à la fois de la loi sur l'eau, mais aussi du plan Ecophyto 2018, ça deviendrait un non-sens. Donc je pense que l'État prend conscience, le ministère de l'Agriculture prend conscience qu'il a tout intérêt à être dans une forme de liberté d'utilisation et de production de ces alternatives aux pesticides. Et ça pourrait être très, très important, parce que la grande...
Excuse-moi, j'étais un peu perturbé. Oui, j'ai perturbé par mon date parce que j'ai levé le doigt. Et bon, tu disais, tu parlais de la nécessité d'autoriser donc ces alternatives qu'il ne suffisait pas de proposer de réduire, mais qu'il fallait de réduire les produits...
Réduire l'utilisation des pesticides.
Mais qu'il fallait aussi proposer des alternatives...
Voilà. Et il ne faut pas non plus être dans une contradiction. D'un côté, il faut protéger l'eau et l'environnement, et de l'autre côté, on autorise toujours l'utilisation de pesticides. Et ça va même très loin, parce qu'on sait très bien que dans des pays à forte production fruitière ou viticole, on retrouve des cas de maladies assez importants. Là, c'est maintenant ça se dévoile peu à peu. Hein, la MSA ouvre un petit peu ses tiroirs cachés. Ensuite, on parle des abeilles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis des abeilles? Donc, il y a encore pas mal d'incertitudes, mais il y a des grandes certitudes, c'est qu'elles disparaissent. Mmh. Et là, ça devient problématique. Donc, il faut vraiment mettre en place des choses. Il faut taper très fort et s'ouvre aujourd'hui une possibilité de reconnaissance. C'est pas encore acquis, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Et après, on n'est pas forcément au fait du fonctionnement des lois, mais quand un projet de loi est proposé, il est toujours en échange de discussion entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce qui est important, c'est que si l'un n'est pas d'accord, ça fait la navette et on se renvoie tout le temps la balle. Donc il faut que les deux parties soient d'accord pour avancer, et après il faut qu'il y ait un décret d'application.
Et oui.
C'est les ministères qui vont appliquer les lois suivant certaines... Donc ils vont respecter le cadre de la loi, mais l'adapter par rapport au contexte actuel. Et ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que les décrets d'application du ministère de l'Agriculture n'allaient pas dans le sens d'une réduction des pesticides. Donc il y a une forme de non-sens, et on dirait même une forme de protection de certains lobbies industriels. Et là, ça devient un petit peu problématique, parce que on autorise une tisane ou de consommer finalement un gratin avec des orties.
Ça, c'est, ça pose aucun problème. Oui. Mais par contre, cette même tisane, si vous l'utilisez sur le jardin, ça devient interdit. Mm. Alors là, il y a vraiment des questions à se poser.
Et moi, je voulais juste rajouter que oui, c'est une question d'autoriser des alternatives en termes curatifs, mais aussi en prévention, parce qu'en fait, c'est tout un ensemble. Forcément, si on demande aux agriculteurs uniquement de réduire leur dose, ils auront peut-être peur qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas. Mais il s'agit de rentrer dans un système cohérent où il y ait toute une prévention. Enfin voilà, c'est un ensemble. Donc c'est utiliser des alternatives pour la prévention et aussi pour dans le côté un peu... Enfin, une fois que s'il y a des maladies ou des choses, mais c'est à tous les niveaux en fait que ça... Voilà. Ça doit commencer.
Ça, c'est ce que tu dis, c'est très important à comprendre, parce que c'est même l'un des objectifs de cette caravane de défense d'une agroécologie paysanne. C'est-à-dire que ce n'est pas arrêter les pesticides et remplacer les pesticides par des produits naturels, ce n'est pas que ça. C'est d'avoir une vision globale du champ ou de son jardin pour utiliser différents outils qui s'offrent à nous, à savoir, tout à l'heure, tu nous parlais de rotation, de culture, d'association de plantes. Mais après, voilà, c'est la diversité même.
De diversité aussi.
Voilà, c'est la diversité d'éléments, de réintégrer finalement des haies, d'utiliser des moyens de lutte qui peuvent être autres, parce que là, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on a une appellation qui s'appelle les éléments de biocontrôle et qui va intégrer aussi les auxiliaires. Et aujourd'hui, il y a une multitude de sociétés en France et à l'étranger qui proposent par exemple des insectes pour appliquer directement dans les champs. Je pense notamment au maïs où on peut utiliser le trichogramme. Donc là, ce sont des insectes qui sont produits, hein, qui sont élevés et qui sont après appliqués dans les champs pour lutter contre des ravageurs.
Voilà, mais juste, je vais rajouter, après peut-être qu'on fait une petite pause.
Oui, hein, oui.
On va se poser un petit peu. Et juste rajouter, ben, l'objectif de réduire de 50% à 2018 avec le tableau que tu viens de brosser, les allers-retours, Sénat, Assemblée nationale, des rédactions des décrets, sorties, validations et tout ça, eh bien ça c'est quasi évident. L'objectif ne sera pas atteint, sachant qu'aujourd'hui on a réduit de quelques pourcents seulement, quoi.
Voilà.
Donc
là,
les 50%, c'est voilà. Et du coup, derrière, ça permet de rebondir sur ce que tu disais, Gabriel, c'est-à-dire que derrière, il faudrait mettre en place de véritables programmes de formation pour les futurs agriculteurs. Ça, c'est pas encore ancré dans le système scolaire, dans le système éducatif pour adultes aussi, les centres de formation qui forment les BP, hein, les brevets professionnels pour les futurs installés. Et les agriculteurs en place, eh bien, ça, c'est un gros volet à mettre en place. C'est une grosse machine, c'est très lourd. Et du coup, c'est sûr que 2018, eh bien, l'échéance, on l'a bouffé, on l'a déjà bouffé. Vous voulez réagir?
Ouais, si on ne fait que former les spécialistes, c'est-à-dire ceux qui sont en BP, on va continuer de penser séparés. Alors que si on se met à former aussi, tu parlais du système scolaire, on pourrait former dès la maternelle les enfants, leur expliquer qu'un jardin, c'est pas juste un pied de tomate et puis non, c'est un ensemble.
Exactement. Et non, mais c'est sûr, plus tôt c'est fait et mieux ça porte ses fruits à l'avenir et pour tout le monde, bien sûr, évidemment.
Et ça me fait un peu penser, c'est pour ça aussi qu'on a des projets, même au jardin familial, d'accueillir des enfants dans le cadre périscolaire autour du jardin potager, pour parler justement du jardin au naturel, mais le jardin dans son ensemble, en fait, la vie globale du jardin. Et aussi, il y a aussi de plus en plus de demandes au niveau des formations en agroécologie, pour notamment dans les systèmes d'enseignement, que ce soit dans les BTS gestion et protection de la nature, dans le domaine agricole aussi, il y a pas mal de formateurs, on va dire, qui s'attellent à proposer des programmes pour intégrer cette réflexion beaucoup plus globale dans les cursus de formation. Mais bon, ça peut prendre du temps.
Il y en a pas mal, mais il n'y en a pas suffisamment. Non, c'est vrai que pour former le grand public ou pour former les futurs agriculteurs, il faut former des formateurs. Et jusqu'à présent, il y a une pénurie de formateurs réellement formés. Donc il y a une première étape qui n'est pas encore accomplie. Et c'est un petit peu dommage. Alors c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus de stages
en agroécologie, mais c'est pas suffisant par rapport oui. à la, au tissu, au tissu non, agricole
dire,
tel qu'il est.
Je veux dire, heureusement, il y a quand même des personnes qui rentrent dans le domaine de l'enseignement classique, on va dire, qui sont pas juste pour des formations grand public aussi. Oui. Et parce que bon, c'est une des parties quand même importantes, il est vrai, quoi, les, tous les cursus agricoles. Il y a le grand public, comme disait Marianne, et voilà. Et puis les cursus agricoles, c'est quand même une aberration qui n'est pas encore tellement de choses sur ce plan-là.
Mmh. Je propose qu'on reprend, on se fait une petite pause musicale. Hein, allez, c'est parti. Voilà, après cette musique bien, bien sympa, qui nous donne un peu la pêche, on va repartir.
Donc, le groove êtes... et le funk.
Oui. Donc, vous êtes toujours sur Radio Diwa, sur le 107.5 FM ou rdwa.fr. Et c'est l'émission Pêle-mêle Bêche, l'émission des jardins. Et nous parlons actuellement donc des PNPP, les plantes naturelles peu préoccupantes, et donc de l'actualité qui tourne autour de ça. Moi, je voulais revenir un petit peu sur l'association justement là qui promeut les produits naturels peu préoccupants, donc l'ASPRO PNPP. Qui a une adresse internet aspro-pnpp.org, donc qui est très très intéressant, et voilà. Et notamment, j'ai pas tout lu, mais ils ont réalisé entre juin 2011 et décembre 2012 une étude assez achalandée, parce que le dossier fait 58 pages. C'est un dossier qui fait état de ce qui se fait chez nos voisins européens et notamment en Espagne, en Autriche et en Allemagne. Les choses sont totalement différentes là-bas au niveau législation. Ce sont pourtant des pays de l'Union européenne, mais avec des règles différentes. Et donc, par exemple, en Espagne, on qualifie les plantes, les PNPP, sont qualifiées de fortifiants ou phytofortifiants. Donc déjà, le terme, c'est une autre approche, c'est complètement autre chose. En Autriche, je vais essayer de vous lire le nom, et je pense que si les gens germaniques m'écoutent, ils vont se marrer, mais bon, c'est pas grave. Elles sont appelées Pflanzenhilfsmittel. Alors, ça, je l'ai peut-être bien dit.
Ouais, c'est bien.
C'est bien ? Ah bon, bah super. Et on le traduit par moyen d'aide aux plantes. Ça, c'est ce que ça voudrait dire.
Mm-hmm.
Donc là aussi, l'approche est tout à fait différente. Et en Allemagne, on les appelle les fortifiants de plantes.
T'as pas le nom en allemand ?
Et j'ai pas le nom en allemand. Non, il est pas dans le dossier. Et dans ce dossier, eh bien, ils ont étudié et ils sont allés à la rencontre de l'administration, des agriculteurs, d'utilisateurs, de fabricants aussi, parce qu'il y a des fabricants là-bas, puisque c'est commercialisé, des produits sont commercialisés, sont autorisés à la transformation et à la vente publique et grand public, et donc les agriculteurs les utilisent. Et donc ils ont fait cette étude-là dans les trois pays, et on s'aperçoit eh bien que l'approche politique est complètement différente. Alors après, il faut remettre dans le contexte, par exemple le cas de l'Espagne. L'Espagne est beaucoup passée en bio après avoir beaucoup détruit, et aujourd'hui fait une bio que l'on qualifie, enfin moi que je qualifie d'industrielle, puisqu'en fait elle a fait un copier-coller de la monoculture, enfin ce qui se fait aussi en France, mais là-bas c'est quand même à l'échelle notamment en fruits et légumes.
Et sur le plan social, c'est une vraie catastrophe.
Et voilà, et sur le plan social, c'est une vraie catastrophe, et environnementale aussi, hein, tout va avec malheureusement. Mais il n'empêche que voilà, il y a quand même au niveau politique plus de facilité pour arriver à élaborer des produits qui soient faciles d'accès et qui soient issus intégralement de produits naturels. Et Olivier, tu as peut-être une donnée concernant plus précisément l'Allemagne.
Oui, alors en Allemagne, c'est vrai que à partir du moment où la préparation naturelle, qui peut être à base de plantes ou non, participe au maintien de la santé des plantes en général, dans la mesure où ils n'agissent pas comme des pesticides, ou alors que ça protège les plantes contre des effets indésirables parasitaires, ces préparations sont utilisées, sont utilisables. Il y a vraiment une liste ouverte. Et il y a même plus précisément, il y a une liste qui est en cours d'élaboration et qui comptait en fin de compte fin décembre 2013, 136 produits utilisables. Et ça montre que vraiment on peut utiliser une grande diversité de préparations, pas forcément que de plantes, mais en tout cas il y a une grande tolérance, et je dirais l'État va vraiment dans ce, enfin l'État fédéral va vraiment dans ce sens de privilégier les alternatives aux pesticides. Donc voilà. Oui.
Et juste en France, est-ce que vous avez un nombre de plantes autorisées, parce que là tu parles de 136, que c'est bien?
En France, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas du tout encore.
En France, mais non, c'est qu'il n'y en a pas encore.
Il y a l'ortie, il y a seulement l'ortie.
L'ortie, oui, voilà. Ouais.
Il y en a une.
Il y en a une, c'est l'ortie. Et malheureusement, la recette, ça suppose aux industriels, ceux qui commercialisent ce purin d'ortie, de suivre une recette. La recette qui a été dictée par le ministère de l'Agriculture et qui est qualifiée par AfroPNPP comme une piquette. Ouais. Une piquette d'ortie, c'est-à-dire une préparation frelatée qui n'a aucun effet, voire même des effets néfastes pour les cultures. Et ça, on pourrait même se poser des questions. Est-ce que c'est pas ça n'a pas été comme une visée à discréditer le purin d'ortie au bénéfice finalement des pesticides? Voilà, il y a des questions à se poser de ce côté-là.
On peut se poser la question, effectivement. Voilà. Ouais.
Mais donc c'est vraiment des problématiques au niveau national. C'est pas, on peut pas dire que c'est l'Europe ou quoi. C'est chaque pays vraiment a sa façon de gérer ça.
Exactement.
Et alors en Allemagne, en tout cas, ils sont bien plus bien plus.
Voilà, c'est exactement ça. C'est le gouvernement français, c'est absolument pas l'Europe qui freine des cas de fer. Et pourtant, on pourrait. Comment dire, les préparations naturelles, ça appartient au domaine public d'une manière générale. Donc, elles peuvent être autoproduites ou réalisées par des paysans, par des petites entreprises aussi locales, parce que c'est vrai que, vu la quantité de préparation que l'on pourrait faire en autoproduction, on ne peut pas tout faire. Enfin, je suis un petit peu pragmatique sur ce côté-là, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut aussi laisser la possibilité d'acheter à des gens qui vont peut-être autoproduire, mais en plus grosse quantité, qui vont en produire plus que ce qu'ils ont besoin, donc à des paysans, ou voire peut-être à des sociétés qui vont pouvoir en fabriquer. Et ça représente, mine de rien, un enjeu, parce que ça peut être créateur d'emplois. Ça peut vraiment créer une économie locale, mais quand on parle économie, sachant que les leaders du marché des pesticides, ben, c'est pas les agriculteurs, on s'entend bien, hein, c'est les grosses multinationales, et on va pas citer leurs noms parce que je pense qu'ici, on les aime pas trop. Mais voilà, donc ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a un non-sens à la française. D'un côté, on veut aller dans le côté de la santé humaine, la dépollution de l'eau. On veut aller, dans un respect de l'environnement, un respect des conditions de travail et de l'alimentation. Et puis de l'autre, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. Si ce n'est
on va
attendre ce mois-ci ce que va donner vraiment les derniers votes pour libéraliser, pour autoriser finalement l'utilisation de ces PNPP.
Voilà. Parce que les PNPP, donc il y a effectivement par rapport à ça, il y a un règlement européen justement dans le dossier établi par Aspro PNPP qui dit, donc le règlement européen c'est le 1007/2009, ouvre une voie très simplifiée pour la commercialisation des PNPP avec les substances de base. Pour l'application du présent règlement, une substance de base active qui répond aux critères des denrées alimentaires définis à l'article 2 du règlement européen, alors là c'en est un autre, c'est le 178/2002, est considérée comme une substance de base et tout ce qui est reconnu comme substance de base n'a pas besoin d'autorisation de mise en marché. Donc en toute logique, les moyens sont à disposition et ont été cadrés au niveau européen pour que chaque pays puisse mettre en place la commercialisation, la fabrication et la distribution des produits à partir du moment où ils sont considérés comme des produits de base des denrées alimentaires, donc ce que tu as cité tout à l'heure, Olivier, par exemple, quoi.
Sucre, le vinaigre, l'argile.
Le sucre, le vinaigre, voilà, ces choses-là, quoi. Voilà. Et donc, apparemment, l'administration française semble refuser cette simplicité et elle bloque, par son attitude, l'avancée des PNPP pour les utilisateurs et pour la recherche en France. Là, il y a eu, avec la loi d'avenir agricole, on peut espérer que le pas a été franchi et que derrière, on va pas aller vers un simulacre d'acceptation des PNPP et que véritablement, on va voir poindre le jour pour une facilitation, la facilité d'utilisation. Pourquoi pas créer aussi des fabricants, hein, c'est pas exclu. Les agriculteurs seront demain très contents si on leur transforme des plantes qui viendront protéger leur culture et qui simplifieront leur travail, quoi.
Bien sûr. Hein,
c'est, voilà.
Il y a de nombreuses choses dans la santé humaine que l'on pourrait faire soi-même, hein. On peut faire des teintures mères, on peut faire une multitude de tisanes, etc. Et on pourrait produire ses propres plantes, mais on est bien conscient qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Ça suppose d'avoir des connaissances et d'avoir du temps. Et parfois, on se confie à des personnes qui ont ce savoir et des producteurs, des distillateurs de plantes. On va tout simplement acheter un flacon d'huile essentielle pour une utilisation bien particulière, alors qu'on pourrait produire ses propres huiles essentielles.
Avant, ça se faisait plus finalement. Il y avait plus chacun dans la ferme, mais bon, il y avait pas mal de personnes aussi autour du foyer qui allaient à la fois sécher les plantes médicinales, faire les lapins, avoir le potager, cultiver la vigne, faire des saucissons, faire son vin, faire les liqueurs. Enfin bon, on faisait beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'était pas dans les mêmes quantités aussi. C'est-à-dire que c'était un peu de tout.
Pour pouvoir faire ça, on est obligé d'avoir une façon de vivre beaucoup plus communautaire. Là,
voilà, c'est ça.
Et oui. On est chacun cloisonné dans son petit appartement, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à ça.
Et oui, moi quand j'avais fait du woofing en Roumanie, il y avait la grand-mère qui effeuillait la menthe séchée en discutant. Voilà, comme Ariane qui fait son tricot tout en faisant une émission.
Fallait pas le dire, ça,
ça
se voyait
pas. Ça veut
dire
qu'on peut être actif dans la vie quotidienne, valoriser chaque instant pour faire des petites choses, et ça se faisait beaucoup, quoi, au coin du feu. Ou... bon, je fais un peu l'image utopique. Mais c'est vrai que de nos jours, on a, voilà, dans tous les domaines, on passe plus de temps à des activités principales et peut-être on multiplie moins les petites activités. Donc c'est vrai que ça peut ouvrir un champ de spécialisation aussi, cette production de préparation.
Voilà, tout à fait. Ça peut donner un débouché pour des agriculteurs. Certains vont produire des extraits fermentés de plantes, d'autres vont pouvoir...
Produire que des plantes.
Pourquoi voilà.
Ouais.
Et ça peut
des champs de consommation.
Des matières premières supplémentaires à la production, un atelier supplémentaire.
Parce qu'en plus, il y a des gens qui n'arrivent pas à produire de l'ortie, par exemple, à avoir de l'ortie.
Mais oui, parce qu'il faut un terroir pour ça. Le terroir qui n'y est pas là, si on n'a pas les terres à.
Ou la prêle, par exemple. C'est des terrains spécifiques.
Il y a des coins où il y en a de partout et ça se ramasse à. À la faucheuse, ça pourrait se conditionner même comme du fourrage.
On va dans le Vercors, on trouve de l'ortie à n'en plus finir. Dans le Diois, arrivé dans le Diois, l'ortie elle devient beaucoup plus rare.
Non, on a un coin ortie au jardin familial.
Il y a des petits coins, des grandes étendues à ortie, il y en a pas dans le Diois.
C'est là où il y avait peut-être des tas de fumier, des animaux et tout. Nous, en tout cas, là où il y avait des choses qui se sont compostées pendant de nombreuses années, peut-être des petits coins pipi aussi, mais il y a plein d'orties, il y en a un coin ortie.
Ce qu'on appelle les zones rudérales, en général. Tous les décombres, les endroits détritus, à côté de la ferme, à côté de la maison, au fond du jardin, c'est des endroits orties en général. Moi, je voudrais rebondir à nouveau pour la loi Ecophyto 2018. Donc on parle du domaine agricole, mais ce qui se passe, c'est que pour 2020-2022, seront interdits, respectivement pour les collectivités locales, à savoir toutes les municipalités, l'utilisation des pesticides dans les espaces verts. Dans les cimetières, sur les terrains de foot, etc., on ne pourra plus utiliser de pesticides.
Et les voies ferrées, parce que c'est... voies ferrées, là, je viens de voir... dans le courant du mois d'août, là, dans le début du mois, le passage à niveau a été désherbé, quoi.
Oui.
Ah oui.
Et les abords.
Ouais.
Et je suis allé dans les Hautes-Alpes il y a quelques temps, courant du mois de fin juillet. Le long des voies ferrées, tout est brûlé. Brûlé par des défoliants.
Je croyais que tu allais me dire l'inverse, ça m'annonçait qu'il y avait des fleurs partout.
Non, j'étais scotché.
On a du mal à voir ça.
La quantité qui est utilisée.
L'agriculture utilise énormément de pesticides, mais si on ramène à une seule entreprise, on va dire, le réseau ferré français, c'est le premier consommateur en tonnage. Des broussaillants, des foliants. C'est pas que des petites molécules désherbantes de contact comme on peut retrouver en agriculture. Ce sont vraiment des produits beaucoup plus nocifs et des doses beaucoup plus importantes.
Mais ce sont des zones qu'on pourrait traiter autrement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là de la voie ferrée elle-même. Parce que désherber entre les cailloux, tout ça, ça doit être compliqué.
Il y a d'autres moyens, ou alors c'est surtout les bordures de voies ferrées, le ballast empêche pas mal la pousse de végétation.
Mais oui, déjà.
Voilà, mais c'est traité sur le ballast quand même, parce qu'il y a quand même un petit peu de végétation qui peut pousser, mais c'est surtout sur les côtés.
Alors que les côtés, ça pourrait être fleuri. D'ailleurs, on voit pas mal d'endroits du côté de Romans, là, c'est pas les voies ferrées, mais c'est les bordures de route. Où il y a énormément de types de bordures de routes fleuries, en fait, où on voit des tas de fleurs sauvages en fleurs partout. Et ça, c'est vrai que ce sont des choses qu'on peut faire au niveau des municipalités qu'on pourrait faire sur les voies ferrées.
Tout à fait.
Avoir les fleurs.
Donc il y a des alternatives qui sont possibles. Parfois, c'est un peu plus coûteux et c'est moins rapide que l'application de défoliants. Il n'empêche que, faut que je vérifie un petit peu, mais j'ai cru comprendre que sur la vallée de la Drôme, il y avait eu un accord qui avait été conclu pour que la SNCF et le réseau ferré français n'appliquent pas de pesticides sur la voie ferrée. Bon, c'est à vérifier.
Là, c'est le passage à niveau. C'est vrai qu'habituellement, on voit des épareuses, c'est les broyeurs sur bras articulés,
voilà,
qui sont doublement équipés à la fois de roues pneumatiques et des roues de chemin de fer, et qui montent sur les rails et qui parcourent la voie et qui broient les branches qui pourraient être...
à côté, là, c'est terrible aussi. Hein.
Oui, bon, après, il pourrait être utilisé...
C'est du déchiquetage, quand même, un peu.
Il pourrait être utilisé des lamiers, c'est-à-dire des scies qui couperaient proprement les branches. Il n'empêche qu'il faut quand même intervenir, parce qu'on ne peut pas laisser les arbres percuter
c'est
les trains.
Vrai.
Enfin,
mais
les trains percuter les branches des arbres, ça, c'est pas... Voilà. Mais bon,
mais
c'est
quand
même...
Les arbres sont quand même assez
Les arbres sont
blessés.
Avec ça, les arbres sont blessés, effectivement, mais c'est pas du pesticide, malgré tout.
Non, c'est déjà...
Voilà, c'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est le lamier. Bon, c'est un investissement, mais c'est vrai qu'il faut arriver à faire entendre à ces grosses entreprises qui ont la culture du chiffre que des fois les chiffres, dans le long terme, il y a un retour. Ça s'appelle le retour sur investissement lorsque on a une entreprise, mais il faut arrêter de gérer ça avec le court terme, et ça, il faut arriver à leur faire comprendre à ces entreprises, et c'est pas évident, quoi.
Et quelles sont les entreprises alors qui font ce travail? Est-ce que c'est la SNCF ou non? C'est délégué à des entreprises?
C'est des entreprises privées,
locales, on sait pas trop ici.
Il y a des entreprises qui sont spécialisées sur ce genre de prestations et qui ne font que ça, donc c'est des kilomètres et des kilomètres
Oui, c'est ça.
De haies,
c'est pas forcément
de
des
lisières,
entreprises locales en plus, puisque une ligne de chemin de fer, justement, elles peuvent la faire tout du long depuis un peu loin.
Voilà.
Alors, allez, on fait un côté, au retour, on fait l'autre.
Voilà. Donc, en fait, je reviens un petit peu sur la loi Ecophyto 2018. Donc, on voit une interdiction progressive pour les collectivités locales, pour les particuliers, parce qu'on ne trouvera plus de pesticides après dans les jardineries. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. Mais par contre, pour les agriculteurs, de réduire de 50% si possible, parce que ça, c'est les textes...
Oui, c'est si possible. Alors ça, il était pas mal celui-là.
Mais voilà, donc on est un petit peu dans une contradiction. Et jusqu'à présent, le simple fait de... Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'est encore en suspens parce que c'est en cours de discussion encore aujourd'hui, ce mois de septembre, mais très important vis-à-vis de l'adoption du texte de loi, c'est qu'un producteur de purin d'ortie, par exemple, s'il produit et commercialise sans autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle une AMM, risque 2 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Ça, c'est les risques encourus à l'heure actuelle. Donc simplement parce qu'on produit et on vend du purin d'ortie. Donc sachant qu'on ne va pas empoisonner les gens, on ne va pas empoisonner l'environnement. C'est un petit peu un non-sens, mais bon, ça c'est typiquement français. On est dans des contradictions de texte et une préservation peut-être d'intérêts industriels.
Mais oui, il y a peut-être forcément des gens cachés derrière un rideau, derrière le grand rideau, qui œuvrent dans l'ombre, quoi, pour préserver leurs intérêts, quoi.
Ouais. Donc soyez attentifs par rapport à ce mois de septembre, il va y avoir des choses qui vont bouger, il y aura peut-être des manifestations par-ci par-là, des réactions, des articles de journaux, des débats, ça va bien bouger parce que l'enjeu est quand même très important.
Moi, je voulais, dans le mois de septembre, à la fin du mois de septembre, je pense que c'est important de le dire, et je voudrais inciter tous les auditeurs à aller sur le site réseausemencespaysanne.org, puisqu'il y a la semaine de la semence paysanne, les dates exactement, c'est du 20 au 28 septembre. Voilà, du 20 au 28 septembre, donc ce mois-ci. Une semaine d'action. Alors pourquoi? Eh bien, les paysans, jardiniers, artisans semenciers du réseau semences paysannes font vivre les semences paysannes dans les fermes et les jardins et participent à des échanges de savoir et savoir-faire pour la sauvegarde et le renouvellement de la biodiversité cultivée. Donc l'idée, c'est d'inciter un peu partout des manifestations, des actions, des rassemblements de jardiniers, des trocs de graines, des bourses de graines. Voilà. Et comme un peu comme la semaine pour les alternatives aux pesticides, il y a moyen de signifier un événement et de le faire apparaître sur une carte. Et voilà. Donc... Pelmelbèche a une adresse mail qui est tout en minuscule pelmelbèche@gmail.com. On peut laisser un message en venant ici à la radio, mais si parmi les auditeurs d'aujourd'hui, eh bien, il y a des gens qui aimeraient initier une action, quelque chose, eh bien, qu'ils se fassent connaître, qu'ils le fassent savoir. Et puis nous, en tant qu'équipe de radio là et jardiniers et passionnés, ben, on veut bien, enfin moi personnellement, je veux bien m'investir dans quelque chose, quoi.
Voilà, moi aussi, voilà. Oui, ce serait bien qu'on en parle un peu et puis qu'on trouve un autre événement
ensemble, c'est
à
mieux.
Faire, voilà.
Comment...
Sur le marché de Die, on verra.
Ben oui, pourquoi pas, ouais. Comme on avait fait,
comme on avait fait pour la semaine pour les alternatives aux pesticides.
Oui, ça serait vraiment chouette.
Ça peut être ça.
Il y aura des actions également contre le gaspillage alimentaire au mois de septembre. Donc un petit rappel de l'émission précédente dont j'avais fait la chronique.
D'accord. Qu'on pourrait réintituler la journée pour le consommer autrement.
Bah je sais
que
pas.
C'est positif et contre.
Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais... je suis entièrement d'accord. Mais là, je reprends les termes qui sont utilisés.
Oui. Ben on leur fera des suggestions. Qui est à l'initiative? Tu connais l'initiative? Qui est à l'initiative de cette journée?
Alors il y a déjà l'Europe a institué 2014 comme année de lutte contre le gaspillage, mais après il y a une multitude d'associations, je pense à France Nature Environnement qui est bien mobilisée sur le sujet.
D'accord, bon, à surveiller okay. Alors. Bien.
Bon, bah, merci à tous. Et
voilà.
Puis,
merci Marianne d'être venue parmi nous.
Merci de votre accueil.
Ouais, tu es la bienvenue quand tu veux. Chers
bon
auditeurs, à bientôt.
Voilà, bon jardinage à tous et bon mois de septembre.
Merci, à bientôt.
Allez, à bientôt.